Alors, bon matin, bon dimanche à vous tous. Merci, Arma, pour ta prière. Et aussi, l'équipe de louanges pour les chants qui nous rappellent notre bienheureuse espérance, voir mon Sauveur face à face. Merci pour la grâce que Dieu nous a accordée. Et en attendant aussi, comme nous avons vu et entendu ce matin lors du culte de du repas du Seigneur, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Mais en attendant notre délivrance, nous avons quelqu'un qui est touché par justement nos infirmités et qui compatit justement avec des difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Alors, quelle grâce, bonheur de le connaître, de savoir que Jésus-Christ est toujours présent avec nous, c'est ce dont nous avons besoin. Alors ce matin, nous allons terminer notre série que nous avions commencée il y a quelques semaines. 5 façons d'y parvenir quand nous parlons de choisir de grandir. Et nous avons dit que nous sommes en train de focaliser sur l'importance d'avoir une grande foi. Pourquoi? Parce que notre foi est importante aux yeux de Dieu. Quand il a créé Adam et Ève, ils les ont placés dans le jardin d'Éden. Dieu leur a donné un test. C'était un test de la foi. Est-ce que Adam et Ève, malgré le fait que Dieu leur avait défendu de prendre du fruit, est-ce que ils allaient lui faire confiance? Et nous savons que malheureusement, Satan a justement réussi à faire douter Ève de la bonté de notre Dieu. Mais depuis ce temps-là, si vous êtes honnête, nous savons que nous tous, nous luttons avec cela. Est-ce que notre Dieu est vraiment digne de confiance? Et vous savez, Dieu connaît aussi notre faiblesse, il nous aide justement à mettre en application certaines choses qui font en sorte que notre foi en lui va grandir. Et nous avons vu ces choses dans les semaines précédentes. Les relations providentielles connectées pour grandir. Et nous avons dit que c'est important d'avoir justement un réseau d'amis chrétiens. Et quand nous passons par les moments difficiles, et nous avons justement envie de tout laisser tomber, notre foi a pris un coup dur à cause justement peut-être des circonstances de la vie, comment c'est précieux d'avoir un petit cercle d'amis, des gens avec lesquels nous avons tissé des relations authentiques qui vont connecter avec nous pour nous aider justement à ne pas reculer, mais d'avancer. De discipline privée, nous avons dit que le Seigneur aussi nous demande de lui faire confiance. Et il nous apparaît dans Matthieu chapitre 6 de donner de façon régulière, de consacrer un temps pour la prière, de lui faire confiance que si nous donnons et nous prenons de notre temps justement pour passer dans l'intimité avec lui, il va nous le rendre. Comme il a dit, il nous le rendra. Enseignement pratique, obéir pour grandir, nous avons vu aussi que le Seigneur nous demande de mettre sa parole en pratique. Et quand par la foi nous obéissons, et il a promis aussi de bénir, dans Jacques nous lisons que celui qui plonge ses regards dans la loi de la liberté, et n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera quoi? Heureux dans son activité. Le mot heureux veut dire bénir. Et quand la fidélité de Dieu pour nous bénir intersecte avec notre foi aussi va grandir. Ministère personnel, nous avons vu aussi comment est-ce que le Seigneur peut servir de nos dons, les capacités qu'il nous donne, et nous le mettons à son service à travers un ministère, et nous voyons comment le Seigneur agit, comment aussi ça aide notre foi à grandir. Et ce matin, nous voulons regarder le dernier message dans cette série, les circonstances pivotales, oser pour grandir. Vous savez, un jour, le Seigneur était confronté, il était devant un homme, et cet homme a dit au Seigneur, et sa serviteur était malade. Et le Seigneur, il a dit au Jésus, tu n'as pas besoin de venir sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur a été vraiment épaté de voir cette grande foi que cet homme, justement, a exercée à son égard. Il a dit, j'ai jamais vu de aussi grande foi en Israël. Ce serait bien que le Seigneur aussi peut vous regarder ce matin, peut me regarder et dire, je n'ai jamais aussi vu une si grande foi au Québec. Ici, même, dans la province et dans, justement, le secteur de Cap-la-Madeleine. Alors, nous allons regarder ce texte ce matin en parlant, justement, des circonstances. Circonstances qui nous arrivent. Les circonstances qui pourraient être bonnes ou mauvaises. Nous n'avons pas de contrôle sur les circonstances de la vie. Très souvent, les circonstances nous arrivent et nous sommes hors, justement, de contrôle de ces circonstances. Et nous parlons aussi des circonstances pivotales. Vous savez, pivot, c'est comme une charnière. Et je veux parler ici ce matin des circonstances qui nous arrivent et qui ont la capacité de changer notre vie de direction. Un changement radical dans notre vie, ou est-ce qu'à cause des circonstances, notre vie prend une toute autre direction? Pourquoi oser? Le mot oser veut dire avoir la hardiesse, avoir le courage. Entreprendre avec courage. Et l'idée ici, c'est devant ces circonstances. Et surtout devant les circonstances qui sont difficiles. Les circonstances qui amènent la souffrance. Comment pouvons-nous faire face à ces circonstances avec courage, dans le but de grandir à travers ces circonstances difficiles? Alors peut-être ce matin, vous êtes justement en train de vivre une circonstance pivotale. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui est en train justement de vivre des circonstances difficiles. Peut-être bientôt ce sera votre tour, comme quelqu'un a dit ce matin lors du repas du Seigneur, tôt ou tard, les circonstances difficiles nous attrapent. Ce n'est pas une question de si, mais plutôt une question de quand. Alors si vous êtes dans de telles circonstances ce matin, comment est-ce que vous êtes en train de réagir face à cela? Est-ce que vous avez le courage, justement, de passer, de faire face et de grandir à travers cela? Comment est-ce que la personne que vous connaissez est en train de réagir? Et quand ce sera votre tour, ou la mienne, ou le mien plutôt, comment est-ce que vous pensez que vous allez réagir? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va aller directement dans la parole de Dieu. Et je vous invite de tourner dans vos Bibles si vous les avez, si vous avez un iPad, si vous avez un iPhone, qu'importe. C'est le chapitre 14 du livre d'Exode. Exode chapitre 14, et nous allons lire le verset 1 et 2. Je vous mets dans le contexte ce matin. C'est un épisode qui se passe dans la vie des enfants d'Israël. Ce peuple-là, enfants d'Israël, ce sont des descendants de Jacob, un patriarche. Ils ont passé près de 400 ans en Israël, plutôt en Égypte, pardon. Ils étaient des esclaves en Égypte. Ils avaient une vie de servitude extrêmement dure à cause du pharaon. Et voilà, après 400 ans, Dieu leur suscite un libérateur, Moïse. Et après une confrontation avec le pharaon, où est-ce que Dieu va frapper le pays d'Égypte avec ce qu'on appelle les 10 plaies? Et comme nous pensons à la dernière plaie qui a frappé l'Égypte, où est-ce que le Seigneur a demandé au peuple justement de tuer un animal, de mettre le sang sur la porte et sur les linteaux, et Dieu a dit, l'ange destructeur va venir dans le pays. Mais la bonne nouvelle pour les enfants d'Israël, c'est que Dieu leur a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et l'ange destructeur n'entrera pas dans vos foyers pour détruire vos enfants. Contrairement à cela, chez les Égyptiens, où est-ce qu'il n'y avait pas de sang, l'ange destructeur est rentré dans le foyer et tous les premiers-nés des hommes du bétail sont tous morts. Et quelle belle image nous avons justement de la croix de Calvaire. Jésus-Christ qui verse son sang pour nous, qui paye la dette de nos péchés. Et Dieu nous regarde, il vous regarde, il me regarde. Et si nous avons mis notre confiance, si nous avons appliqué le sang, Dieu nous regarde et dit, le jugement qui va venir sur cette terre. Quand je vois le sang que vous avez appliqué, le fait que vous avez pris Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, alors je passerai par-dessus vous. Vous serez en sécurité. Et tous ceux ici ce matin, si vous connaissez Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes en sécurité parce que vous êtes cachés et vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Alors, voilà le contexte. Et après, alors, cette confrontation, les enfants d'Israël quittent le pays. Ils s'en vont maintenant vers la terre promise. La terre que Dieu avait réservée pour son peuple et ils vont prendre une marche pour s'y rendre. Et là, maintenant, Dieu va intervenir, il va parler directement à Moïse, et on lit ceci, chapitre 14, au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse. Alors, le trajet, le directif que Dieu va donner, et dit, « Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Et ça, c'est un peu étrange. Quand nous lisons ce texte, ce peuple est en train de quitter le pays. Il y a un chemin, si on regarde, pour aller dans la terre promise, et le chemin aurait été un peu plus direct s'ils avaient passé par ici, justement ici. Mais Dieu va leur faire un détour et va leur demander, au lieu de passer par en haut, justement, mais de venir ici en bas. Et ce qui est aussi remarquable quand nous lisons le texte, c'est que Dieu va leur dire de camper, justement, et ils vont les mettre dans une place assez stratégique. Vous avez la mer qui est en face. Et il semble avoir deux endroits chaque côté. Et si vous pensez à le contexte dans lequel ce peuple se trouve, humainement parlant, ce n'est pas le temps justement d'être campé, d'être sédentaire, sachant qu'il vient juste de quitter l'Égypte, un pays extrêmement puissant. Il y a une armée puissante, il y a Pharaon qui est là. Humainement parlant, il devrait être en train de mettre la plus grande distance, le plus rapidement possible entre Égypte et eux-mêmes. Mais Dieu dit non. Vous allez prendre une direction que je vous donne et vous allez camper là et vous allez rester là. Deuxième chose qu'il va dire à Moïse, c'est que Pharaon dira au verset 2 encore, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui se passe maintenant dans la tête de Moïse? Dieu est en train de révéler à Moïse que ce trajet que vous allez emprunter, vous allez rencontrer des épreuves. L'épreuve va venir dans la personne de Pharaon. Et Pharaon va justement poursuivre les enfants d'Israël. Et quand il va poursuivre les enfants d'Israël, ce n'est pas pour venir leur dire, mais comment ça va? Est-ce que vous manquez de quoi vous s'en va dans le désert? Est-ce que je peux vous aider? Non, ce n'est pas de tout cela. Cet homme va venir avec la colère, Il cherche justement de se venger de ce qui est arrivé avec les premiers-nés des Égyptiens en Égypte. Et là, Dieu avertit justement que Pharaon va venir. Il va y avoir des épreuves. Et la troisième chose qu'il va dire à Moïse, « Mais Pharaon et toute son armée serviront afin d'éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Wow! Dieu a dit, « Ok, je vous montre le chemin que vous allez suivre. Je vous préviens qu'il va y avoir des épreuves, mais ça va être pour ma gloire. Je serai glorifié par ce qui va se passer. Je vais faire éclater ma gloire. » Et sous-entendu, si les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, mais Israël aussi, combien plus que Israël aussi va savoir que leur Dieu, c'est l'Éternel. Nous lisons que les enfants d'Israël firent ainsi. Moi, j'ai eu l'impression que Moïse n'a pas dit aux enfants d'Israël tout ce que Dieu lui a révélé. J'imagine qu'il a dit aux enfants d'Israël, « Ok, on va prendre une telle direction. » C'est Dieu qui nous dit d'aller dans cette direction-là. Le peuple a dit, « Oui, c'est correct. Moïse, c'est toi le chef, notre leader. On va te suivre. » Et on voit comment aussi Moïse, cet homme de Dieu, comment est-ce qu'il fait confiance à Dieu. Dieu lui demande de prendre un chemin, de suivre un trajet. Il avertit qu'il va y avoir des épreuves. Il avertit justement que Pharaon va venir. Mais Dieu aussi lui a dit, « Mais qu'est-ce qui va vous arriver? Ça va être pour ma gloire. » Et Moïse, voyez la foi qu'il exerce en Dieu. « Ok, on va y aller dans cette direction. Ça va être difficile. » Mais je sais que, Seigneur, tu vas être glorifié. Et c'est ça qui compte pour moi. Alors, Moïse et les enfants d'Israël y ont suivi le chemin tracé par Dieu. Je demande comment est-ce que vous et moi, nous aurions réagi si on savait tout cela. Dieu nous a tracé un chemin. Dieu nous a averti qu'il va y avoir des obstacles. Mais Dieu nous dit, écoute, ça va être pour ma gloire. Et j'ai ici, si nous avions le choix, en étant honnête, la plupart d'entre nous, nous resterions dans notre zone de confort parce que c'est là qu'on est bien. C'est là où on ressent la sécurité. Mais Dieu peut orchestrer ou permettre des circonstances dans notre vie qui en changeront la direction. Et peut-être quelques-uns de vous ce matin, vous êtes en train d'expérimenter cela. Ou bien vous pouvez vous rappeler d'un événement dans votre vie. Où est-ce que votre vie a pris une tournure, une direction radicalement différente de ce qu'elle était avant. Et Dieu est en train de faire cela pour une chose, pour deux choses plutôt. Pour qu'il soit glorifié et en même temps aussi qu'on apprenne à faire confiance à ce Dieu qui nous aime, et qui a prouvé son amour pour nous à la croix. Alors, je vous donne quelques exemples qui pourraient être pour nous des circonstances pivotales. Je parle d'un nouvel emploi. Ce sont des bonnes choses. Mais comme je dis souvent, ce sont des choses qui nous amènent un peu hors de notre zone de confort. Et là, il faut qu'on fasse confiance au Seigneur. Alors, il peut y avoir un nouvel emploi, même une promotion. Et là, vous êtes demandé de faire des choses, vous n'êtes pas tellement certain comment ça va se passer, mais Dieu vous dit, fais-moi confiance. Un déménagement, des circonstances hors de votre contrôle, quelque chose arrive et vous êtes obligé de déménager dans un nouvel endroit, dans une nouvelle région. Et suite à cela, vous voyez que votre vie est en train de prendre une autre direction. Il peut y avoir la retraite. Oui, c'est vrai. Vous êtes habitué à aller au travail lundi jusqu'à vendredi. Vous travaillez un certain nombre d'heures et maintenant vous êtes à la retraite. Et là, il ouvre toutes sortes de possibilités devant vous. Et votre vie avant peut aussi aller dans une autre direction. Mais il peut y aussi avoir des choses, comme je dis, des mauvaises choses qui nous arrivent à cause justement de ce que la vie est. La vie apporte son lot de souffrances, les difficultés, la maladie. Combien souvent nous entendons les gens qui ont hâte justement d'arriver à leur retraite pour faire une telle chose, pour faire une telle chose. Et ils vont chez le médecin, ils reçoivent un mauvais rapport et soudainement, tout leur projet, leur rêve tombe à l'eau et leur vie prend une autre direction. Puis il y a aussi les naissances, surtout des enfants qui naissent avec des besoins particuliers qui vont aussi maintenant affecter les parents, les grands-parents et ainsi de suite. Un dessin aussi, un couple, le monsieur meurt ou la madame meurt, et là la personne se retrouve seule, la vie change. Il peut y avoir la guerre. Je pense ici à notre frère Adama, dans son pays, et où est-ce qu'il était, Côte d'Ivoire, il y a une guerre qui éclate, une guerre civile. Et à cause de cela, sa vie a pris un changement radical. Il est venu ici au Canada. On remercie le Seigneur, mais on voit comment est-ce que le Seigneur peut utiliser des circonstances pivotales pour aussi nous amener dans une tout à fait une direction qui est tout à fait différente. Le psalmiste dans Psaume 107 nous dit ceci. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire cela? Il a dit, soyez pas surpris. Quand le Seigneur prend votre vie, quand le Seigneur permet qu'il y ait des circonstances qui arrivent dans votre vie, et votre vie prend une direction tout à fait différente, et là vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort, vous êtes obligé de quitter le port, et vous allez sur les grandes eaux. Soyez pas étonnés. Ne pas vouloir toujours rester collé au bord, parce que c'est justement dans ces situations-là que vous pouvez voir la puissance et les œuvres de Dieu, ces merveilles. Wow! Mais j'aimerais aussi faire une mise en garde ce matin. Je ne veux pas non plus que quelqu'un dise « Ok, wow! » Je veux sortir de mon zone de confort. Si Dieu me dit là, qu'il va avoir des merveilles, puis je vois des choses extraordinaires, mais là, je suis prêt à vendre ma maison, vendre ma voiture, tout. Je m'en vais sur le champ missionnaire. Et là, je vais voir comment est-ce que Dieu va agir. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je vous donne l'exemple de Moïse. Moïse était un homme, le même Moïse que nous avons ici dans notre texte ce matin. Il était en Égypte, prince d'Égypte. Et la Bible nous dit qu'il y avait 40 ans. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque justement la situation pénible et difficile de ses frères. Alors, il était majeur. Il y avait aussi le pouvoir, il était le prince d'Égypte. Il y avait un besoin aussi. Le peuple gémissait dans l'esclavage. Et Moïse avait une conviction. Il dit, moi, là, je me lève, je sors de mon zone de confort, je vais m'identifier avec mes frères et mes sœurs et je vais délivrer ce peuple. Qu'est-ce que le texte nous dit? Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne compréhaient pas pourquoi l'erreur de Moïse, ce n'était pas le bon timing. Alors, faites attention quand on parle justement de ces circonstances pivotales que nous ne prenions pas les choses entre nos propres mains. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que Moïse soit justement celui qui délivre Israël à ce moment-là? Mais regarde ce qu'il a fait. Il a tué un Égyptien. Il voyait un Égyptien qui maltraitait un de ses frères. Et tout de suite, tu peux imaginer justement la colère qui a saisi Moïse. Il a regardé à droite et à gauche, mais il n'a pas regardé en haut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Pouvez-vous imaginer ce type d'homme en train de diriger le peuple de Dieu? Wow! Tout de suite, ils vont en ajuster, paf! Il réagit. Dieu a dit non. Il l'a envoyé dans le désert. 40 ans, tu vas prendre soin des brebis de ton beau-père avant que je te confie mes propres brebis. C'est une question de caractère. Moïse, il fallait qu'il apprenne justement d'être comme le Seigneur, doux, compatissant. Ce n'est pas le bon timing. Alors, revenons à nos moutons. Nous avons justement le trajet, mais Dieu, pour son peuple, là, il y a un test. Oh, comment le Seigneur est bon, hein? Entre le verset 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite, je fais justement un petit résumé. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les Égyptiens se sont réveillés après que le peuple est parti. Et là, ils ont dit, qu'est-ce que nous avons fait? En bon québécois, ils ont dit, écoute, on dormait sa switch. Comment se fait-il que nous avons laissé partir les enfants d'Israël? C'était notre source de main-d'œuvre gratis. Et là, maintenant, on n'a plus rien. Et là, Pharaon, il dit, non, non, ça ne marche pas comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attelle, justement, il ramasse son armée. Il y a des chariots, il y a des élites, justement, des guerriers. Et ils vont, comme Dieu a prévenu Moïse, ils vont poursuivre les enfants d'Israël. Et ça va devenir maintenant une test. Dieu a donné des directives, mais là, Israël va se trouver maintenant dans une situation de détresse, de souffrance. Et je vous lis le texte au verset 9 et verset 10. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer. Vinrent Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Zéphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Pouvez-vous imaginer, justement, la détresse de ce peuple-là? Pouvez-vous imaginer tout ce qui passait par leur esprit? Pourquoi est-ce qu'on est resté campé dans ce lieu-là? On aurait pu être peut-être une dizaine, une centaine de kilomètres plus loin. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés là. Mais là, ils sont maintenant confrontés avec une nouvelle situation. Leur vie a pris une nouvelle direction. Dieu leur avait dit d'aller dans une telle direction. Et qu'est-ce qu'ils rencontrent tout de suite? Des épreuves. Et comment est-ce qu'ils vont réagir? C'est un test. Comment est-ce qu'ils vont réagir à cela? Mais la première chose que nous lisons, qu'ils ont eu peur. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Comment est-ce que vous auriez réagi dans une telle situation? Mais moi, c'est comment est-ce que moi j'aurais réagi? J'aurais eu aussi peur. C'est tout à fait normal, la peur. Nous avons vu ce matin, à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, devant la croix, le moment le plus difficile, le test le plus difficile de sa vie, il est dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce que nous lisons? Il a commencé à éprouver quoi? Des frayeurs et des angoisses. Alors, dans une situation difficile que la vie peut nous apporter, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas une question d'être super spirituel. C'est normal d'avoir peur. Jésus a eu peur. Et c'est normal d'avoir peur devant ce que la vie peut nous apporter. Mais la chose qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes dans une telle situation que Dieu permet d'arriver dans notre vie. Et voilà la prière. Ils ont tourné vers Dieu et nous lisons qu'ils ont crié à l'Éternel. Et ça, c'est la bonne réponse. Chaque fois que nous sommes sur un chemin tracé par le Seigneur, et le Seigneur permet justement qu'il y ait les épreuves qui nous arrivent, la souffrance qui nous arrive, notre recours, c'est de tourner vers Dieu dans la prière. Psaume 56, 4 nous dit ceci, « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me crois, je me confie. » Je me confie. La confiance en Dieu. Et qui est notre modèle par excellence dans cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait encore dans le jardin de Gethsémané quand il a commencé à avoir les angoisses et la frayeur? Il s'est approché, il est allé mettre à genoux et il a prié. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur nous a laissé justement un exemple. Dans les moments difficiles, les plus difficiles de sa vie, Jésus a eu recours à la prière. Et je vous encourage ce matin, si vous êtes dans une situation difficile, si votre vie est en train de basculer, si votre foi justement a été ébranlée par une épreuve quelconque, ayez recours à la prière. Mais malheureusement, je ne sais pas combien de temps ils ont prié. Est-ce qu'ils ont passé toute la nuit à prier? Est-ce qu'ils ont prié 5 minutes? Le texte ne nous dit pas. Mais est-ce que le texte nous dit que les prières s'est virées rapidement en plainte? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, « Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et vous voyez comment est-ce qu'ils avaient besoin de ce test. Parce qu'ici, maintenant, au lieu de continuer dans la prière, au lieu de s'accrocher à Dieu, ils cherchent un coupable. Moïse, c'est ta faute. Regarde ce que tu nous as fait. On t'a suivi et regarde qu'est-ce qui arrive. C'est ta faute. C'est de ta faute. Et l'autre chose aussi, on voit combien de fois ils ont mentionné le mot Égypte ou Égyptien. Pourquoi? Parce que c'était leur zone de confort. Même s'ils étaient esclaves, c'est tout ce qu'ils connaissaient, c'était l'Égypte. Alors quand l'épreuve est venue, on n'aurait pas dû être ici, on voudrait être en Égypte. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ça. Quand on t'a suivi, c'est pas ça qu'on s'y attendait. Et combien de fois souvent nous avons la même réaction dans notre vie chrétienne? Des choses qui nous arrivent. Et au lieu de s'accrocher à Dieu, on commence, comme on dit en bon québécois, à chialer. Et comme on dit en anglais, I didn't sign up for this. Ça veut dire quoi? C'est que quand tu t'es venu à la croix et que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, dans ta tête, c'était, whoop, on se met sur la cruise et je m'en vais dans ma vie sans problème. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Les plaintes. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu a permis cela? Mais c'est parce que, vous savez, c'est très facile, quand les choses vont bien, de démontrer que, oh, tout est beau, je suis un chrétien, j'aime Jésus, j'ai la foi. Mais le vrai test de notre foi, c'est quand les choses vont mal. Et c'est pas comment nous agissons quand tout est beau, mais c'est comment nous réagissons quand les choses vont mal. Et nous avons tous besoin, il n'y a personne ici qui ait une exception, nous avons tous besoin que notre foi soit éprouvée. Et c'est ce que Jacques va nous dire ceci. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Tellement important cela. Dieu veut justement que notre foi soit solide. Et la façon qu'il a choisi, je ne sais pas pourquoi, mais la façon dont il a choisi de faire cela, c'est à travers les épreuves. Et les épreuves vont faire deux choses possibles. Dieu nous soumet au test de la souffrance pour éprouver et augmenter la puissance et la qualité de la foi, démontrant ainsi sa validité. L'épreuve, c'est toujours un test pour renforcer la foi du croyant. Quand les épreuves viennent et je suis capable de regarder au Seigneur et dire « Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je te fais confiance. » C'est une façon justement d'augmenter et de renforcer notre foi. Mais aussi l'épreuve peut devenir une tentation. S'il échoue en réagissant selon la chair, l'épreuve devient une tentation ou une sollicitation à commettre le mal. Citation de John MacArthur. Quand nous pensons que Dieu a simplement permis quelque chose, que quelque chose nous arrive, ou qu'il nous a fait quelque chose, il est facile de faiblir dans notre foi. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je n'ai pas besoin de ça. Mais quand nous acceptons qu'il est en train de faire quelque chose en nous, c'est pourquoi l'épreuve. Pour ensuite faire quelque chose à travers nous, nous bénéficierons de sa grâce qui nous permet de persévérer. Et c'est ce que Jacques dit. Quand les épreuves viennent et nous acceptons que Dieu est en train de nous façonner à l'image de Jésus-Christ, il est en train de nous modeler, notre foi, justement, va être affermie. Notre foi va grandir et nous allons être des chrétiens qui persévèrent. Tellement important. Mais vous, Dieu n'est pas pris par surprise avec les enfants d'Israël. Et après ce test, il va aussi, comme on dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez quoi éprouvé ou testé au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, le test, il va préparer aussi quoi un moyen de s'en sortir afin que vous puissiez quoi la supporter. Alors après justement le trajet directive, il y avait le test de détresse. La détresse, Dieu maintenant va les amener à la victoire, triomphe, délivrance. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et ça est surprenant. Moïse vient de recevoir des critiques. Israël n'a pas été tendre à son égard. C'est de ta faute que nous sommes dans une telle situation. C'est toi qui nous as amenés ici. On ne voulait pas être là. Et comment est-ce que cet homme réagit? Il détourne les yeux de ce peuple de lui-même et il dit, regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Une attaque justement contre sa personne. Mais au lieu de réagir et de le prendre ça mal, vous m'avez attaqué, mais tant pis pour vous autres. Il ne mentionne même pas ce qu'ils ont dit à propos de lui. Mais son but, ça c'est un vrai leader. Son but, là, c'est que le peuple, dans cette situation difficile, fixe justement leurs yeux sur le Seigneur, la délivrance qui va venir. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? L'Éternel combattra pour vous. Vous avez quelqu'un qui est là, qui va combattre pour vous. Regardez au Seigneur. Et j'ai mis deux textes ici, Romains 8, 34 et Romains 8, 26. Et les deux sont semblables. Quand nous sommes dans des situations difficiles, combien c'est bien de nous rappeler que nous avons quelqu'un assis à la droite du Père, Romains 8, 34. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Romains 8, 26, on ne sait pas qu'est-ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses avec quoi? Des soupirs inexprimables. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'intercéder pour nous. Combien c'est important là, alors quand on est dans l'épreuve et c'est difficile de se rappeler, de garder nos yeux sur le Seigneur et de rappeler que nous avons quelqu'un qui est en train de combattre pour nous. Et c'est ce que Moïse cherche à faire avec le peuple. Regardez, le Seigneur va vous accorder une délivrance. Gardez vos yeux sur le Seigneur, il va combattre pour vous. L'Éternel aussi, Dieu aussi, il va entrer en jeu maintenant dans ce contexte. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Et ça aussi, c'est remarquable. Le peuple venait justement de critiquer l'homme que Dieu avait choisi, son leader, Moïse. Il venait tout juste aussi de critiquer le chemin que Dieu les avait choisi pour eux autres. Bien de critiquer le plan que Dieu avait pour leur vie, de les amener dans une terre promise en Israël, en Canaan. Ils voulaient retourner en Égypte. Et Dieu ne mentionne même pas cela. La seule chose qu'il dit, pourquoi s'écrit? Il focalise justement sur les besoins de son peuple. Comment que Dieu est gracieux? À sa place, j'aurais dit, quelle gang de chialeux, hein? Vous n'êtes même pas reconnaissant. Vous n'avez pas vu que qu'est-ce que j'ai fait en Égypte et ma puissance que j'ai déployée. C'est comme ça que vous réagissez. Non. La grâce, la compassion. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et dans sa miséricorde, il va venir aussi au secours de son peuple. Pourquoi s'écrit? Et là, il va donner un plan. Comment s'en sortir? La part de Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et Moïse obéit. Moïse étendit sa main sur la mer. Alors, quand Dieu amène une délivrance, souvent, il nous demande de participer. C'est un peu comme souvent, les personnes disent, on va prier pour une telle chose, on va prier pour telle situation. Mais êtes-vous aussi prêt à faire partie de la solution? Et je pense aussi au tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus va faire un miracle, il va faire pour déployer sa puissance, pour montrer qui il est, la résurrection et la vie. Mais qu'est-ce qu'il demande? Ôtez la pierre, ôtez la pierre. Vous avez aussi une chose à faire dans ce que je vais accomplir. Alors Moïse, tu as une part à faire. Les peuples maintenant, les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, ça c'est c'est le plan de Dieu. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à la gauche. Ça donne rien à Dieu d'ouvrir justement le chemin si le peuple n'est pas prêt à y aller. Les autres aussi, il y a quelque chose à faire. Dieu, il sait ce qu'il va faire, mais là, il prévient aussi le peuple, vous devrez rentrer dans la mer. Et justement, la mer forme une muraille. Et j'ai mis une image ici qui me montre un peu comment est-ce que le peuple peut être rendu senti. Imaginez, vous marchez au milieu de la mer. Il y a une muraille d'eau à chaque côté. Et il faut que vous traversiez. Mais qu'est-ce que vous avez en tête tout le temps, 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 tout le temps? Est-ce que l'eau va revenir? Est-ce que l'eau va revenir? D'un coup, l'eau revient. Ça prend la foi, ça. Ça prend la foi. Passez, ne pas regarder ça, mais dire, mon Dieu est en train de retenir l'eau. Mon Dieu est en train de retenir l'eau. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et nous avons aussi la part de Dieu. Dieu fait seulement ce que lui peut faire. Il refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. L'Éternel mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues et leurs chars et en rendit la marche difficile. Et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Voilà. Dieu délivre son peuple ils avaient mis dans une telle situation, il avait dit à Moïse, je vous amène là, moi j'ai un but. Ça va être pour ma gloire. Et là, il détruit justement l'armée de Pharaon. Dieu fait éclater sa gloire, les enfants d'Israël ont vu tout cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on lit? En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et combien ça, c'est important. Et j'imagine une réaction. Wow! What an awesome God! Wow! La main puissante de mon Dieu! Hey, c'est extraordinaire! Il n'aurait jamais vu cela s'il n'avait pas suivi le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Et dans ce contexte-là, dans l'endroit où est-ce que Dieu les avait amenés, il avait aussi préparé un moyen de faire face à cette situation difficile. Et là, ils ont vu vraiment qui était l'Éternel, un Dieu qui est puissant et un main puissant. Alors, comment est-ce que, avant d'aller à l'autre point, juste pour ouvrir une parenthèse, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, on dit, face à une menace d'être jetés dans une fournaise ardente, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Parce qu'il y avait justement, il fallait qu'ils se posternent devant la statue que le roi avait érigée. Et si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Et ces hommes ont dit non. On ne va pas adorer des statues et des idoles. On va adorer Dieu. Et notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi, sinon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils sont rentrés trois, mais à un moment donné, le roi y a vu quatre. Il y a un exemple ici, une leçon importante. Humainement parlant, nous voudrions toujours avoir la délivrance, n'importe quelle situation. Ça, c'est normal. On est humain. Mais la meilleure délivrance qui peut nous arriver dans une situation difficile, même si notre vie est menacée, c'est de quitter cette terre et d'aller rejoindre le Seigneur. Et Paul, il le savait, il dit, j'ai hâte de quitter et d'aller me rejoindre au Seigneur. Ça, c'est la vraie délivrance. Alors, on ne sait pas comment le Seigneur agit dans les circonstances. Et parfois, même quand on crie, il n'est pas comme on s'y attend. Mais même dans ce contexte-là, si le Seigneur ne vient pas comme on voudrait, il n'agit pas comme on voudrait qu'il agisse, et il nous amène auprès de lui, c'est encore une délivrance. Parce qu'on est délivré justement de la terre et tout ce qui est ici sur la terre. Et ça, c'est la vraie délivrance, d'être dans la présence de Dieu, de voir mon sauveur face à face, d'être libéré justement du péché, d'avoir un corps un jour qui va ressembler au Seigneur Jésus-Christ, d'être dans le bonheur éternel. Ça, c'est la délivrance. Mais même dans les souffrances sur la terre, le Seigneur sera toujours avec nous dans l'épreuve. Et je termine avec ceci. Après ce qu'ils ont vu, le but pour lequel le Seigneur l'a fait passer dans ce chemin-là, c'était pour le progrès. Trois choses qui est arrivée suite à ce qui est arrivé. La crainte de Dieu, le peuple craignit l'Éternel. Alors, il y avait une révérence. Ils étaient émerveillés devant la personne de Dieu qui les avait justement délivrés de la main de Pharaon. Il y avait la confiance en Dieu. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Leur foi, leur pchou, vraiment agrandi. Et aussi, il y avait des chants. Je chanterai, ça c'est chapitre 15 au verset 1. À Dieu, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Quelle fin heureuse d'une épreuve. Ils ont passé par les moments difficiles, mais ils ont sorti triomphants. Et ils ont fait des progrès. Ils ont un respect, un nouveau respect maintenant pour Dieu, une révérence et une confiance en Dieu. Puis le cœur est tellement rempli justement de reconnaissance qu'ils éclatent. Justement, en chant d'action de grâce. Vous lisez le chapitre 15, ah, c'est rempli d'adoration, puis le peuple chante, puis c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est avec les quatre coins. C'est bien de savoir tout cela, mais j'ai mis un quatrième point, le training. Ce n'est pas le temps. Quand vous êtes dans l'épreuve, de chercher comment s'en sortir. On peut se préparer d'avance. Il est très important qu'on soit mindé, justement, à ce qui peut nous arriver, comme ça a été mentionné ce matin. Et nous pouvons nous entraîner pour justement être capables de faire face. J'ai commencé en disant « oser pour grandir ». Affronter la situation comment avec courage, comme nous avons vu. Parce que quoi? Nous avons un Dieu qui est là. Les enfants d'Israël, quand ils ont mis le sang sur le linteau et les portes, savaient une chose. Dieu ne serait pas contre eux. Ça, c'est vrai. Mais il fallait qu'ils apprennent une leçon extrêmement, extrêmement importante. C'était que Dieu était aussi pour eux. Et ça, c'est une leçon que vous et moi, nous avons à apprendre tout au long de notre vie chrétienne. Il faut que nous soyons plus que les chrétiens de Jean 3,16. J'ai mon salut dans ma poche, je sais que j'irai pas en enfer, je m'en vais au ciel. Mais la vie chrétienne est plus que cela. C'est que de savoir que dans les épreuves, nous avons aussi un Dieu qui est pour nous. Un Dieu qui va combattre pour nous. Un Dieu qui va nous soutenir dans les moments difficiles. Un Dieu qui est toujours présent. Voici un texte, si Dieu répond nous, qui sera contre nous. Et je vous laisse avec deux questions, puisque Dieu utilise des circonstances pivotales pour faire croître notre foi en lui. Comment allez-vous réagir la prochaine fois que la vie vous apporte une surprise? Ma prière que vous ne réagissez pas comme les enfants d'Israël qui ont chialé. Pourquoi Dieu nous a-tu sorti de notre zone de confort? On était bien là. On n'a pas besoin de ça. Mais que vous allez justement focaliser sur le Christ, sachant que Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Et la deuxième chose, si vous connaissez quelqu'un qui est en train de vivre difficilement une circonstance pivotale, demandez au Seigneur de vous montrer comment vous pouvez être une source d'encouragement pour lui ou pour elle. Et si ce matin, vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur personnel, je vous laisse avec une parole. Osez. Vous savez, très souvent, qu'est-ce qui empêche des gens de venir au Christ? C'est manque de courage. Si j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que mes amis vont dire? Je risque de perdre justement mes copains, mes copines et ainsi de suite. Mais osez. Osez avoir le courage de regarder à la croix et de voir ce Christ qui dit « Je vous aime tellement que je suis allé mourir. J'ai porté vos péchés en mon corps sur le bois parce que je vous aime. » Et si vous vous humiliez, vous vous dites « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et vous dites « Oui, merci Seigneur parce que tu es mort pour mes péchés. » Ça, c'est de prendre du courage. Mais Dieu va récompenser cela. Cet acte de foi va vous donner la vie éternelle. Et vous allez passer l'éternité, loin des épreuves. Vous allez en voir aussi, encore, sur la terre, mais au moins le Seigneur sera avec vous. Et vous savez qu'un jour, vous serez dans sa présence pour l'éternité. Non. Alors, je termine avec cela, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Le psalmiste dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, on te demande simplement de parler à nos cœurs, que tu te révèles de plus en plus, Seigneur, qui tu es, ce Dieu merveilleux, qui a un plan aussi merveilleux pour nos vies. Aide-nous, Seigneur, de te faire confiance de plus en plus, d'avoir le courage, Seigneur, de te faire confiance, même quand tu permets des choses difficiles dans nos vies. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui, peut-être par minute, qui ne te connaissent pas. Ouvre leur intelligence. afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.